Alors, je vous propose de commenter, enfin de méditer et de commenter ce passage extrait de l'Épître aux Romains, au chapitre 3, versets 1 à 20. Voici la lecture. Y a-t-il alors un avantage à être juif? La circoncision a-t-elle une valeur? L'avantage est grand à tous égards, et d'abord c'est aux juifs que Dieu a confié ses paroles. Que dire alors si certains d'entre eux ont été infidèles? Dieu va-t-il renoncer à être fidèle parce qu'eux ne l'ont pas été? Certainement pas. Il faut que Dieu agisse selon la vérité, même si tout homme est menteur, comme le déclare l'Écriture. Il faut que tu sois reconnu juste dans ce que tu dis, et que tu sois vainqueur si l'on te met en jugement. Mais si le mal que nous faisons sert à montrer que Dieu est juste, que dirons-nous? Dieu est-il injuste parce qu'il nous punit? Je parle à la manière des hommes. Pas du tout. Car si Dieu était injuste, comment pourrait-il juger le monde? Mais si mon mensonge fait apparaître d'autant plus clairement la vérité de Dieu, et sert donc à sa gloire, pourquoi devrais-je encore être condamné comme pécheur? Et alors pourquoi ne pas dire, faisons le mal pour qu'il en sorte du bien? Certains, en effet, pour dire du mal de moi, m'accusent de prononcer de telles paroles. Ces gens seront condamnés et ils le méritent bien. Mais quoi? Sommes-nous, nous les Juifs, supérieurs aux autres hommes? Pas du tout. J'ai déjà démontré que les Juifs et les autres hommes sont tous également sous la domination du péché. L'Écriture le déclare. Il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne, personne qui cherche Dieu. Tous se sont égarés, loin de Dieu, ensemble ils se sont perdus. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gorge est comme une tombe ouverte, leur langue leur sert à tromper. Les paroles qui sortent de leurs lèvres sont comme du poison de serpent. Leur bouche est pleine de malédictions amères. Ils courent avec rapidité pour tuer. Ils laissent la destruction et le malheur partout où ils passent. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. Ils vivent sans aucune crainte de Dieu. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont soumis à la loi, afin que nulle excuse ne puisse sortir de la bouche des hommes et que le monde entier soit placé sous le jugement de Dieu. Car personne ne sera reconnu juste devant Dieu pour avoir accompli ce qu'ordonne la loi. La loi permet seulement à l'homme de voir, de savoir qu'il a péché. Alors, oui, passage difficile. L'Épître aux Romains est une épître fondamentale dans le Nouveau Testament. C'est même la pierre d'achoppement entre le protestantisme et le catholicisme. C'est comme ça que l'a vu Luther. Et ce n'est pas une épître facile. Dans la deuxième épître de Pierre, d'ailleurs, on dit que certains passages des épîtres de Paul sont difficiles. Eh bien, l'épître aux Romains fait partie de ces passages. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas la lire, parce qu'elle est fondamentale, comme nous allons le voir. D'abord, il faut savoir que l'épître aux Romains a été écrit vers 57 après Jésus-Christ, quand Paul était en train de faire une collecte pour l'église de Jérusalem. Il écrit de Corinthe. Et il se tourne vers l'Occident et écrit, finalement, Paul probablement est mort vers 64, donc il écrit quelques années avant sa mort, parce qu'il compte aller à Rome, comme on le voit dans les Actes des Apôtres. Et là, il écrit, disons, un espèce de résumé théologique où il fait comme une présentation de sa théologie pour préparer son voyage à Rome. C'est pour ça qu'elle est si importante, cette épître, car elle n'est pas écrite en fonction de problèmes particuliers, mais c'est toute la théologie de Paul qui se déploie, notamment par rapport au conflit qu'il y a entre juifs et chrétiens et païens, pardon, qui vont former l'Église, toutes ces communautés où il y a les deux mélangés et où Paul a eu tellement de mal avec les judéo-chrétiens, et à Rome il y en avait. Donc Paul fait un espèce de résumé de sa théologie, notamment par rapport au problème de l'assimilation, pardon, je vais arriver, des païens dans l'Église chrétienne aux côtés des juifs qui deviennent eux aussi chrétiens. Alors, il faut savoir que cet épître donc intervient après une longue démonstration de Paul au chapitre 2, où il montre que ce n'est pas parce qu'on est juif qu'on est sauvé automatiquement. Je dirais que nos amis protestants parfois sont guettés par ce piège de penser que, Paul le dit, hein, surtout dans cet épître, c'est ce qui a provoqué la scission avec Luther, que nous sommes sauvés par grâce. On verra ce que ça veut dire. Mais ce n'est pas parce que nous avons dit que nous sommes chrétiens et que nous avons reçu Jésus-Christ comme sauveur personnel, pour reprendre un discours bien protestant, que nous sommes dispensés de vivre à la hauteur des exigences du Christ. Autrement, nous faisons comme les juifs qui étaient persuadés d'être au-dessus des autres et que le simple fait d'être juif de la race d'Abraham suffisait. C'est ce que dit Jean-Baptiste. Qui vous a appris à échapper à la colère de Dieu? Sachez que de ces pierres, Dieu peut susciter des fils d'Abraham. Parce que voilà où ils en étaient arrivés, les juifs. Hein, et c'est le problème que Jésus a rencontré lui-même avec les pharisiens. Donc, soyons bien, je veux dire, gardons-nous bien de ce raisonnement. Où ça existe juste des catholiques qui sont persuadés qu'à la mesure de leur dévotion, ou le fait d'aller à la messe le dimanche, les exemptent d'être chrétiens le reste de la semaine. Eh bien, c'est une très très grave erreur. Le Concile Vatican II a dit que c'est un des plus grands scandales et que là, il y a vraiment danger. Alors, je vous propose de rentrer plus avant dans l'épître. Alors, je vais faire un commentaire linéaire et essayer de vous montrer une interprétation plus ou moins littérale. Et puis après, pour chaque petit passage que je vais prendre, les fameuses interprétations traditionnelles, donc centrées sur notre vie quotidienne, sur le Christ et sur la fin des temps, ou la mort. Alors, l'épître commence, enfin le chapitre, y a-t-il un avantage à être juif? Parce qu'il vient de montrer, hein, si je lis un petit peu avant, Paul dit, donc, par exemple, à cause de vous juifs, les autres peuples disent du mal de Dieu, parce que le peuple juif n'a pas toujours été à la hauteur. Si l'homme qui n'a pas été circoncis obéit au commandement de la loi, Dieu ne le considérera-t-il pas comme s'il était circoncis? L'homme qui n'est pas circoncis en sa chair, mais qui obéit à la loi, te jugera, toi qui es circoncis en ta chair, mais qui n'obéit pas à la loi. D'accord? Bien que tu possèdes la loi écrite et que tu sois circoncis. En effet, le vrai juif n'est pas celui qui l'est seulement en apparence et qui est circoncis seulement de façon visible dans sa chair. Mais le vrai juif est celui qui l'est intérieurement, etc. Donc après, Paul dit, y a-t-il alors un avantage à être juif? La circoncision a-t-elle une valeur? L'avantage est grand à tous égards. Ça paraît très paradoxal avec ce qu'il vient de dire, ce que je viens de lire. Et d'abord, c'est aux juifs que Dieu a confié ses paroles. Alors, ici, en fait, c'est le paradoxe des cas parents. Alors déjà, il faut savoir... Je crois que c'est au chapitre 9 et chapitre 11 où Paul développe plus avant sa théologie par rapport au peuple d'Israël. Ce n'est pas parce que le salut s'est élargi pour un temps aux non-juifs et que les juifs ont refusé le Messie, hein, que les juifs sont rejetés, etc. Ils sont toujours les aimés de Dieu. C'est bien le sens de Zacharie chapitre 10 qui dit « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé » en s'adressant notamment au peuple juif. Et c'est important de toujours avoir à l'esprit que Dieu continue à aimer les Juifs d'un amour très spécial parce que ça montre que Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est un Dieu fidèle. Parce que quel serait l'amour de Dieu si tout d'un coup, après avoir aimé les Juifs, il décide d'aller voir un autre peuple en cessant d'aimer les Juifs? Non, Dieu nous aime fidèlement. Avec Dieu, il n'y a pas de divorce. Alors, maintenant, si on va plus avant, dans une interprétation un peu plus, j'allais dire, subtile, ici, il faut prendre juif comme étant le croyant, si vous voulez, nous chrétiens. Hein, on va transposer juif égale chrétien, si on voit à notre époque actuelle, pour rendre le message plus actuel, justement. Et justement, y a-t-il un avantage, donc, si on vous dit que, oui, aller à la messe, prier, lire la Bible, etc., eh bien, c'est pas ça qui fait forcément que nous sommes sauvés. Alors, y a-t-il un avantage à aller à la messe, à prier, à lire la Bible, etc.? Est-ce que c'est encore une valeur, hein, c'est la circoncision. Paul nous dit, l'avantage est grand à tous égards. Et il dit que c'est d'abord à nous, chrétiens, que Dieu a confié ses paroles. Oui, alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire si, effectivement... Paul nous dit qu'il n'y a pas à se glorifier d'être juif ou d'être chrétien si on veut. Et puis en fait, c'est très important. Alors, il y a deux pièges en fait. Le premier piège, c'est de penser que nous n'avons aucune pertinence pour nos frères, pour ce monde, parce que de toute façon, nous sommes pécheurs et il n'y a rien à faire. Et... quand on voit la société actuelle qui nous rejette, qui nous accuse, qui semble dire que nous sommes des bigots, effectivement, ils ont raison, il n'y a plus rien à faire. L'autre piège, c'est de dire, bah, de toute façon, tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, donc qu'on soit chrétien ou pas, c'est pareil, il n'y a aucun avantage, tout le monde est pareil. En fait, ici, Paul nous dit que si nous avons un rôle à jouer, d'abord, nous devons être lucides, il y a un avantage à être chrétien et donc il y a un désavantage à ne pas l'être. Et cette lucidité doit nous conduire aussi par rapport à nous-mêmes à nous rendre compte que si nous avons une utilité, ce n'est pas comme nous pensons l'avoir. Dans les chapitres précédents, Paul montre clairement que ce n'est pas en faisant confiance à nos propres forces que nous pourrons vraiment aider Dieu dans son œuvre. Et voilà la clé. Parce que Paul continue, que dire alors si certains d'entre eux ont été infidèles, en parlant des Juifs, hein? Dieu va-t-il renoncer à être fidèle parce que eux ne l'ont pas été? Certainement pas. Il faut que Dieu agisse selon la vérité, même si tout homme est menteur, comme le déclare l'Écriture. Eh bien voilà. La clé, c'est que nous pouvons aider nos frères, que nous pouvons aussi agir en nous-mêmes à la mesure de notre abandon à Dieu. La clé, ce n'est pas nous, ce n'est pas nos efforts pour nous rendre proches de Dieu, mais c'est la mesure l'ouverture à la grâce de Dieu que nous faisons dans notre vie ou que nous faisons dans la vie de nos frères par notre prière et notre amour, cet amour que nous leur manifestons à nos frères, qui lui-même est nourri par notre abandon à Dieu, qui nous donne la capacité d'aimer. Voyez, la clé, c'est Dieu. C'est là la clé. Voyez, j'ai longtemps parlé dans des enregistrements de faire des efforts pour soutenir la grâce de Dieu. Eh bien, ces efforts, contrairement à ce qu'on croit, ne sont pas des efforts volontaristes, etc., mais c'est des efforts pour nous rendre de plus en plus perméables à l'action de la grâce de Dieu dans nos vies ou dans nos comportements par rapport à nos frères. Voilà la clé. Et c'est dans cette mesure-là qu'effectivement nous avons un rôle à jouer et qu'il est intéressant d'être juif, entre guillemets, d'être celui qui prie et qui lit la parole, parce que c'est par ces œuvres de piété que nous nous rendons de plus en plus perméables à la grâce du Christ. Voilà la clé. Et donc il y a bien quelque chose à faire, il y a bien un avantage à être juif, comme le dit Paul, dans la mesure où justement nous nous rendons compte que celui qui est le roc, c'est Dieu, que ce soit pour notre vie, etc., et pour celle de nos frères. Et de même, il ne s'agit surtout pas de penser que parce que nous avons dit une fois pour toutes oui au Christ, nous sommes au paradis, quoi que nous fassions. Le salut est une grâce et nous est offert par grâce, la vie éternelle, le paradis, si vous préférez, dans la mesure où cette vie, nous essayons de nous faire le plus docile possible à la volonté de Dieu, donc le plus perméable possible à la grâce de Dieu. Et alors la mort sera un couronnement où tous les obstacles qui se dressaient encore entre nous et la grâce de Dieu vont tous tomber. Et alors nous serons pleinement tous la grâce de Dieu. Voilà. Et donc, après, justement, Paul continue en citant les Écritures, le psaume 51, il faut que tu sois reconnu juste dans ce que tu dis et que tu sois vainqueur si l'on te met en jugement. Donc, il utilise ça pour montrer que, effectivement, si l'on doit être reconnu juste et on doit être vainqueur, c'est qu'il y a un combat, donc nous sommes tous menteurs. Bon, c'était son argument. Mais ça veut bien dire que malgré le fait que nous soyons petits et que nous soyons pleins de péchés, et que Dieu est notre roc, nous devons vaincre, nous devons faire des efforts, nous devons aimer, mais en Dieu, justement, par sa force, par sa grâce, en ne comptant que sur lui. Et donc ces efforts dont je parlais, je peux même être un peu plus précis. Par exemple, quand nous avons envie de nous mettre en colère ou d'agir par la force, eh bien, il ne suffit pas de dire non, non, je ne dois pas le faire, je vais me forcer à, parce que ça va tenir un temps, mais pas longtemps, mais c'est de trouver le moyen de lever les yeux vers le ciel et d'avoir une mini-prière, une prière jaculatoire, comme on dit en termes techniques, ou de nous isoler jusqu'à ce que la paix revienne, c'est-à-dire jusqu'à ce que la grâce de Dieu puisse de nouveau faire son travail efficace. Voilà où est l'effort. Alors, remarquons d'ailleurs que Paul cite toujours les Écritures pour sa justification. L'Écriture doit devenir une nourriture et notre guide. Nous y reviendrons plus tard dans ce même commentaire de l'Épître. Et signalons que le seul qui les fait vraiment, c'est Jésus. Il a dit la volonté, ma nourriture, c'est faire la volonté du Père. Et Jésus était celui qui passait des nuits entières de prière avant d'agir. Donc, si le Christ l'a fait, en tant que Fils de l'homme, il n'est pas question pour nous de ne pas le faire. Alors, après, Paul dit, mais si le mal que nous faisons sert à montrer que Dieu est juste, que dirons-nous? Dieu est-il injuste parce qu'il nous punit? Je parle à la manière des hommes. Pas du tout. Car si Dieu était injuste, comment pourrait-il juger le monde? Mais si mon mensonge fait apparaître d'autant plus clairement la vérité de Dieu, et sert donc à sa gloire, pourquoi devrais-je encore être condamné comme pécheur? Et alors pourquoi ne pas dire, faisons le mal pour qu'il en sorte du bien? Alors, ça paraît un peu tiré par les cheveux, son argumentation, mais il le dira après, hein, il le dit d'ailleurs, certains en effet, pour dire du mal de moi, m'accusent de prononcer de telles paroles. Donc ici, on voit bien pourquoi il souligne ça. D'ailleurs, on peut remarquer la mauvaise foi qui existe toujours. De ceux qui contredisent le message chrétien, on emploie tout et n'importe quoi. Et c'est difficile de répondre à des choses comme ça, aussi grosses, aussi grossières. Alors, mais à travers ces paroles qui nous paraissent un petit peu tirées par les cheveux, il y a quelque chose de très intéressant. Alors là, on va commencer par l'aspect anagogique, justement. Ici, il est dit que, en gros, si Dieu, donc, comment je vais dire ça? Dieu tire du bien du mal. Hein, c'est le Genèse chapitre 50, l'histoire de Joseph, par exemple, hein, où par l'emprisonnement de Joseph et le fait qu'il ait été vendu comme esclave par ses frères, eh bien, il devient le ministre du Pharaon et finalement, ça permet de sauver son peuple de la famine, ses frères. Donc, c'est pas, alors évidemment, c'est pas parce que Dieu tire du bien du mal que nous pouvons faire ce que nous voulons, hein. C'est bien ça. Et on pourrait même aller à dire, mais puisque Dieu donc fait bien toutes choses, eh bien, pourquoi nous punirait-il? C'est bien culotté de sa part. Alors ici, le premier obstacle, c'est de penser, alors si je prends la version, enfin l'interprétation centrée sur les fins dernières, anagogique, c'est surtout le verset 7, hein, où il dit, pourquoi donc devrais-je encore être condamné comme pécheur? Faisons le mal qu'il en sort du bien. Beaucoup de gens osent affirmer, alors, soit Dieu n'existe pas, soit, etc., il n'y a pas de paradis, mais il y a aussi une tendance qui est très fréquente dans l'Église catholique, malheureusement, dans notre Église, qui est de dire, eh bien, finalement, tout le monde sera sauvé. Tout le monde sera sauvé, donc voilà, c'est très bien. Alors, oui, mais le problème, c'est que dans ce cas-là, le piège, c'est qu'il n'y a plus d'efforts à faire. On n'évangélise plus. À quoi ça sert d'évangéliser? On ne dit plus à quelqu'un ce que tu fais c'est mal, ce que tu fais c'est bien. Alors on se dit bah, que le pape se mêle de ce qu'il regarde, etc., etc. De toute façon, Dieu aime tout le monde. Donc, si c'est le cas, à quoi ça sert de faire des efforts, d'être chrétien, de suivre la parole de Dieu, de s'abandonner à Dieu, puisque de toute façon, tout est gagné. Pourquoi évangéliser les gens? Pourquoi leur dire que le Christ est un plus? Puisque quoi qu'ils fassent, de toute façon, Dieu les aime. Alors là, il y a quand même un énorme piège. Parce que, d'abord, je dirais que nous, parents, nous aimons nos enfants quoi qu'ils fassent, mais ça ne nous empêche pas de leur tracer des frontières. Et pas de dire, fais ce que tu veux, de toute façon, ça ne change rien à mon amour. Justement, c'est dans la mesure où nous les aimons que nous les protégeons de certains problèmes. Et là, je voudrais venir à cette chanson très médiocre, à mon avis, de Paul Naref qui dit, nous irons tous au paradis. Il n'a pas été inspiré ce jour-là. Alors il dit, que tu sois truand, mécréant, etc., nous irons tous au paradis. Mais je dirais que si c'est vraiment le cas, alors le paradis deviendra vite un enfer. Les gens ne viendront au paradis, les prostituées vous précéderont dans le royaume des cieux, dit Jésus, que parce qu'elles s'étaient converties, à l'inverse des pharisiens. Donc en fait, j'ai pas d'inconvénient, et le Christ le dit, tout le monde peut aller au paradis. Le bon larron qui a dû faire quelque chose de grave pour être crucifié, oui, mais il faut se repentir, il faut être purifié et changé. Parce que si tout le monde va au paradis tel qu'il est, eh bien on reproduit exactement ce que nous avons maintenant. Donc ce n'est plus un paradis, et ça tournera bien vite à l'enfer, si c'est éternel. Alors, il y a une condition. Donc il faut que les gens, le paradis n'est pas une reproduction fidèle de notre société. Le paradis exige que chacun change intérieurement, parce que c'est à la mesure où chacun change intérieurement qu'une société, qu'un groupe peut changer. Donc vous voyez déjà le premier piège. Donc Paul le dit, Donc, lui, ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Et ensuite, si nous revenons un peu plus au verset 5, où il dit à quoi ça sert, mais si le mal que nous faisons sert à montrer que Dieu est juste, pourquoi Dieu serait-il injuste à nous punir? Pas du tout, car si Dieu était injuste, comment pourrait-il juger le monde? Là, nous avons un appel à la lucidité. C'est pareil. Il ne faut pas croire que parce que la grâce de Dieu travaille dans les cœurs, que parce que Dieu aime, nous sommes dispensés, nous, chrétiens, d'agir, de faire quelque chose. J'en dis tout à l'heure que le piège, ça serait de penser que si tout le monde est sauvé, que si Dieu fait le principal, nous n'avons pas à faire grand-chose. Mais je viens de vous expliquer tout à l'heure que nous avons un rôle à jouer, pas comme nous le pensons, mais beaucoup plus discret et en nous mettant en retrait par rapport à la grâce de Dieu, simplement en l'épaulant par notre liberté humaine qui est finalement le travail de l'incarnation. Je suis homme parmi les hommes et je transforme mes frères par un travail discret et aimant. Et à notre échelle, c'est Paul qui en donne la clé dans l'Épître aux Colossiens, je me suis fait, et il dit, j'achève en moi les souffrances du Christ en pensant aux églises pour lesquelles il a du souci. Eh bien nous, c'est en priant pour nos frères, c'est en les aimant avec la grâce de Dieu que nous faisons ce travail d'incarnation dans la société. Donc c'est un travail beaucoup plus discret, qui peut déboucher certes sur un témoignage plus explicite et sur, une mise en garde plus explicite sur c'est bien, c'est pas bien. Mais c'est d'abord un travail d'accompagnement, d'amour et de prière. Mais ce rôle, nous avons ce rôle à jouer, nous avons donc un rôle à jouer. Et ce rôle n'est possible que si nous avons la lucidité, celle qu'a Paul, nous disant que Dieu juge. Parce que si Dieu n'était pas juge, il nous laisserait nous brûler, comme les parents, hein, si vous voulez, il nous laisserait aller au casse-pipe et dirait, bah, c'est pas grave, nous parents, nous protégeons nos enfants de certaines choses parce que nous avons déjà jugé que ce qu'ils feraient est mal. C'est ça l'amour de Dieu. Donc, nous sommes appelés à la lucidité. Nous sommes appelés à aimer lucidement. C'est d'abord en reconnaissant nos limites et que notre action doit être accompagnatrice, doit se mettre en retrait, mais un travail d'accompagnement à l'image de Jean-Baptiste par rapport à Jésus, pour le salut de nos frères et pour nous-mêmes. Hein, pour notre vie, c'est pareil. Il faut être lucide. Dieu nous aime, mais ce n'est pas parce que nous avons dit oui à Dieu que tout est fait. Nous avons un travail sur nous-mêmes, des efforts à faire pour justement que la lumière du Christ éclaire toutes nos zones d'ombre. Et nous devons être lucides sur ce qu'il nous montre, et après lui abandonner tout, à chaque seconde, chaque fois que le défaut revient. Vous voyez? C'est ça, ouais, la foi chrétienne. Et alors, Paul dit, « Certains, en effet, pour dire du mal de moi, m'accusent de prononcer telle parole, ces gens seront condamnés et le méritent bien. » Alors, ces gens seront condamnés et le méritent bien, ça pourrait paraître, et je pense que Paul, à la lettre, il le pensait, ça pourrait paraître un bien mauvais exemple. Mais au contraire, c'est un exemple excellent. Si nous rapprochons de Romains 12 et d'un passage, je crois, 1er épître aux Corinthiens chapitre 4, où il dit dans les 1er épître aux Corinthiens qu'il faut attendre, faut laisser à Dieu le jugement. D'ailleurs, Jacques reprend la même idée dans son épître, et dans Romains 12, il dit que en faisant du bien pour ceux qui nous font du mal, nous amassons comme des charbons ardents pour ceux qui nous font du mal. Ça veut dire, si on transpose avec la foi chrétienne, à la mesure de notre pardon, notre charité, eh bien, nous permettons à l'Esprit Saint d'agir et de former des charbons ardents de grâce sur nos frères, pour ceux qui nous font du mal. Parce que le Notre Père pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, c'est une manière de dire, Père, ce qu'il fait, ce qu'il m'a fait est grave, mais je te confie à toi son éducation et le redressement de ce qui a pu conduire à ce qu'il m'offense. Donc on laisse à Dieu le soin d'éduquer les autres. Et notre rôle, c'est simplement de les pardonner, de les aimer. Car le pardon se prolonge et est le début de l'amour. C'est le point de départ. C'est pour ça qu'il est si important. Donc, si nous avons ça en tête, eh bien, quand il dit « ces gens seront condamnés, le méritent bien », finalement, Paul ne va pas essayer de les faire brûler sur un bûcher, il ne va pas essayer de leur régler leur compte, il laisse les choses à Dieu. Et c'est exactement ça que nous devons faire. Si nous abandonnons tout à Dieu, nous avons des défauts, nous prions pour nos frères, nous voyons des défauts chez eux parce que nous devenons lucides, et nous voyons bien que tout n'est pas rose, hein, c'est ce que Paul dit, autrement il n'y aurait pas d'avantage à être juif et avoir la parole de Dieu pour nous, et Dieu c'est juge, mais notre rôle à nous c'est de faire comme Paul, de confier le jugement à Dieu, de remettre à Dieu l'éducation de nos zones d'ombre et des zones d'ombre qu'il y a chez nos frères. Et c'est dans cette mesure-là, parce que nous aurons montré de l'amour et de la miséricorde, qui doit se prolonger par la grâce de Dieu, par des actes aussi de miséricorde et d'amour par rapport à ces gens, eh bien c'est dans cette mesure-là que nous agissons pour ces frères, que nous agissons pour nous-mêmes, parce que là, nous nous faisons amour, et donc en nous faisant amour, l'amour peut davantage agir. Donc, nous servons de tremplin à l'amour par excellence, le Christ qui s'incarne et qui vient dans le cœur de tout homme. Vous voyez où est notre rôle ? Notre rôle est un rôle d'accompagnement. C'est ce que dit Paul, ces gens seront condamnés, ils le méritent bien. Si on essaie de christianiser un peu ces paroles. C'est pareil pour cette vie. Nous voyons des choses dans cette vie qui ne nous plaisent pas, mais il y a beaucoup de choses, nous devons être conscients que la rétribution, ce qui va être la pleine solution ne viendra qu'après la mort. Il y a certaines choses dans nos vies, il faudra toujours accepter d'être tiraillé. Il y a des gens pour qui on prie qui vont mourir, mais nos prières transfigurent, vont au-delà de la mort pour être un poids pour ces gens quand ils sont devant Dieu. Vous voyez, si on reprend tout ce que je viens de dire par rapport à cette vie, il ne faut pas croire que cette vie ne sert à rien parce qu'il n'y a que l'autre. Cette vie est un tremplin, cette vie est une préparation à l'autre, elle a son importance. Mais il faut être lucide, elle n'est qu'un tremplin, elle n'est qu'une préparation. C'est bien ça que Jésus dit beaucoup, il l'a vécu comme ça. Il n'a vécu que pour offrir la vie éternelle aux autres. Mais il a pris au sérieux cette vie, justement, en guérissant les malades, mais c'était toujours accompagné aussi du pardon et d'une guérison spirituelle. Donc en fait, nos gestes, nos actes, nos efforts, cette vie même n'a de valeur que dans la mesure où elle se fait support de la grâce, où nous avons les yeux fixés sur Dieu. Alors Paul va continuer justement dans cette optique. Mais quoi ? Sommes-nous, nous les Juifs, supérieurs aux autres hommes ? Pas du tout. J'ai déjà démontré que les Juifs et les autres hommes sont tous également sous la domination du péché. Alors, Paul a dit que ce n'était pas utile d'être juif. Après, il dit que c'est utile. Et maintenant, il a peur que les gens pensent de nouveau qu'être juif suffit. Il dit non. Nous ne sommes pas supérieurs aux autres. Donc, on rejoint l'idée qu'être chrétien, c'est un plus parce que nous avons un rôle à jouer que dans la mesure où nous accompagnons la grâce et nous nous ouvrons à l'action de Dieu. Pas autrement. Ce n'est pas le fait d'aller à la messe en tant que tel, le fait de lire la Bible, le fait de prier, d'avoir des dévotions qui nous rend meilleurs. C'est dans la mesure où ça nous ouvre à Dieu. Autrement, nous devenons cassants et nous jugeons plutôt que nous jugeons le pécheur plutôt que de juger ce qu'il peut faire et de l'aimer donc en toute lucidité. Si nous jugeons ce que le pécheur fait, alors nous sommes appelés à l'aimer en lucidité. Si nous jugeons parce que nous devenons cassants, nous nous estimons supérieurs, alors c'est le pécheur que nous jugeons et non pas ses actes. Et alors nous ne l'aimons pas en toute lucidité, mais nous le méprisons. Pas toujours en toute lucidité. Vous voyez la différence ? Cette parole du Christ, où ôte la poutre qui est dans ton œil pour ôter la paille qui est dans ton frère, nous sommes appelés. Matthieu chapitre 18, il dit, si on voit un frère, il faut le reprendre. Ézéchiel dit la même chose. Nous sommes appelés à porter un jugement. Là, Paul aussi, il le dit, il porte un jugement. Les hommes sont menteurs. Mais nous sommes appelés à porter un jugement pour mieux aimer, pour ouvrir les gens à la grâce de Dieu par nos prières et notre charité. Nous sommes appelés à juger certains aspects de notre vie, non pas pour nous mépriser, mais pour les ouvrir à la grâce de Dieu. Mais pas appelés à juger pour juger. Alors, donc Paul va après citer un passage des Écritures, parce qu'effectivement, les Juifs, s'ils estiment juste parce qu'ils ont la Bible, Paul leur envoie en pleine face le psaume 14, où justement, la Bible elle-même dit que personne n'est juste. Alors, il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul, il n'y a personne qui comprenne, personne qui cherche Dieu, tous se sont égarés loin de Dieu, ensemble ils se sont perdus. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul, leur gorge est comme une tombe ouverte, leur langue leur sert à tromper. Les paroles qui sortent de leurs lèvres sont comme du poison de serpent, leur bouche est pleine de malédictions amères. Ils courent avec rapidité pour tuer, ils laissent la destruction et le malheur partout où ils passent, ils n'ont pas connu le chemin de la paix, ils vivent sans aucune crainte de Dieu. Jugement très sévère de la parole de Dieu, mais la parole de Dieu justement, elle a cette beauté qu'elle appelle un chat un chat. C'est pour ça que les gens souvent sont réticents à lire la Bible et qu'ils se réfugient sous cette excuse ou derrière cette excuse, ouais la Bible de toute façon c'est pas notre langage, c'est trop dur, le langage est trop dur, dur au sens non pas seulement à comprendre, mais dur parce que c'est sévère. Mais c'est justement ça qui nous ouvre à la lucidité. Il faut savoir reconnaître, comme le dit l'Écriture, nos défauts, les défauts chez certaines personnes, et que notre société n'est pas rose. C'est en portant ce regard que justement nous pourrons apporter le remède, c'est-à-dire commencer à prier, et commencer avec la grâce de Dieu à agir, et à tout remettre sous le regard de Dieu, nos actes pour nos frères, nos prières, nos efforts, et à commencer justement à faire des efforts pour ouvrir nos frères et nous-mêmes à la grâce de Dieu. Si nous n'avons pas cette lucidité que nous offre la parole, eh bien nous dirons ce que disait Paul tout à l'heure. On peut même faire le mal puisque ça permet à Dieu de faire du bien. On appelle mal bien, bien mal, tout ce qu'on fait, et alors nous devenons chrétiens sans sel. Et alors nous sommes bons à jeter aux ordures ou à écraser, à être piétinés, comme le dit le Christ dans Matthieu 5 ou 6, dans son sermon sur la montagne. Donc nous devons avoir ce regard de lucidité sur nous-mêmes, sur nos frères. Et alors Paul continue. Nous savons que... Ah oui, excusez-moi, je reviens là. Pareil pour cette vie, parce que ce jugement qu'il porte, c'est aussi sur cette vie. Il faut aussi savoir que cette vie n'est pas parfaite, qu'il faut savoir reconnaître la soif que nous avons en nous, les frustrations, et que cette vie ne pourra jamais nous combler pleinement, que les biens matériels, l'amitié, l'amour de nos conjoints, de nos enfants, ne pourront pas nous combler pleinement. Et c'est à cette mesure-là que nous arrêterons de nous chercher des refuges, une espèce de dépendance affective par rapport aux autres, ou au shopping, devenir accro à quelque chose, pour vraiment nous ouvrir davantage la grâce de Dieu, et que petit à petit, nous soyons des éponges de la grâce pour être pleinement plongés en Dieu lors de la mort. Parce que si nous n'avons pas ce jugement sur cette vie, eh bien pareil, nous allons perdre notre sel. La Bible nous appelle à bien voir, à bien reconnaître nos manques, nos frustrations, nos vides, parce que de toute façon, ils vont nous rejoindre. Il vaut mieux les voir tout de suite et les confier à Dieu. Nous savons, dit Paul, que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont soumis à la loi, afin que nulle excuse ne puisse sortir de la bouche des hommes et que le monde entier soit placé sous le jugement de Dieu. Alors, si nous lisons bien la Bible, les enseignements de l'Église, si nous pratiquons bien notre foi, eh bien, il est clair que, comme la Bible est assez réaliste, nous allons voir, nous allons être lucides par rapport à toute chose, à commencer par nous-mêmes. C'est bien le but de la loi. C'est ce que dit d'ailleurs Paul quand il continue, « Car personne ne sera reconnu juste devant Dieu pour avoir accompli ce qu'ordonne la loi. La loi permet, la loi ici c'est la Bible, hein, en gros, permet seulement à l'homme de savoir qu'il a péché. » Et c'est bien là, parce que la Bible n'est pas en soi la vie, c'est le Christ la vie. La Bible, c'est pas le Coran. Faut jeter au feu la Bible, si on veut. C'est le Christ, la parole vivante de Dieu. La Bible ne prend toute sa valeur que si d'abord on met le Christ au centre, puisque c'est lui le centre. Mais la valeur première de la Bible, c'est, je crois, je sais plus quel psaume, je crois que c'est le psaume 120 ou 121, où dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. Finalement, c'est ce que dit Paul, la Bible nous apprend le péché, nous apprend ce qu'est le péché, elle nous apprend à être lucides. Et c'est parce que nous sommes lucides que nous nous regardons vers Dieu. Finalement, tout le but de la Bible, c'est de nous ouvrir sur cette dimension de Dieu, nous faire lever les yeux. Elle a cette utilité. Par la Bible, nous nous rendons compte non seulement de nos limites, mais aussi de la façon que Dieu nous offre pour remédier à nos limites, c'est-à-dire nous ouvrir à cette grâce. Faire des efforts pour nous rendre toujours plus perméable à cette grâce de Dieu. C'est en ce sens-là que la Bible est vitale. Alors, c'est bien pour ça qu'il faut la lire, qu'il faut la méditer. Mais la méditer d'une façon spirituelle, parce que si l'on lit la Bible, parce que c'est pareil, ça dépend comment on la lit. Hein, si on la lit comme les Juifs semblaient la lire à l'époque de Paul, donc on trouve dans la Bible tout ce qui nous arrange, hein, pour dire que être juste, ça suffit. Alors que non. Lire la Bible en toute lucidité, c'est la lire de manière spirituelle, avec l'aide de l'Esprit. Et ainsi, la Bible, à travers des passages qui a priori n'ont rien à voir, nous ouvre sur une dimension de l'Esprit, une dimension spirituelle, et nous ouvre toujours davantage au Christ. Et en ce sens-là, elle nous aide à lever les yeux et à nous configurer à celui seul qui peut nous sauver de notre péché. Et justement, ce désir d'être configuré à celui seul, à celui-là seul qui peut nous sauver du péché, eh bien, il faut pour ça être lucide et nous se rendre compte de nos manques. C'est le rôle de la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, selon Paul. Alors attention, parce qu'il y a aussi un piège quand on lit la Bible ou quand on fait des dévotions, Paul le souligne, on n'est pas sauvé, pas forcément pour le paradis, mais aussi de nos malheurs, de nos défauts, pas à force du poignet, en respectant à la lettre des commandements. La morale n'est utile que si elle couronne, que si elle est le fruit de notre abandon à notre Seigneur. C'est le fruit de notre amitié avec Jésus. Et il faut faire très attention parce que quand on présente le message chrétien, la morale n'a de sens que si nous avons rencontré le Christ. C'est pour ça qu'à mon avis, une des premières choses à faire quand on rencontre des gens qui sont loin de Dieu, c'est pas de leur dire tu devrais te marier, tu vas en concubinage, ceci, cela, même des gens qui veulent avorter, c'est d'abord le Christ, le Christ. Parce que si les gens regardent le Christ, alors ils ne seront plus avortés, ce seront des amis de la vie, alors ils vont se marier, alors ils vont mettre de l'ordre dans leur vie. C'est dans ce sens-là, c'est d'abord le Christ qu'il faut regarder. Ratzinger l'avait dit, notre pape Benoît XVI l'avait dit dans une interview, que la morale ne devient prend du sens que si nous avons une relation personnelle avec Jésus. Et c'est bien ça. De même, nos efforts pour nos frères et tout ça n'ont de sens que s'ils sont nourris par l'espérance qu'il y a quelque chose qui agit, qui rend vivant nos efforts, quelque chose qui va couronner ce que nous pouvons faire. Ces efforts d'abandon au Christ, ces efforts de renoncement à la solution de faciliter la violence, la solution des hommes, si vous voulez. Tout ça n'a de sens que si nous avons conscience qu'il y a une autre dimension. Levez les yeux. Oui, Dieu existe. Dieu est là. Et il travaille dans le cœur de l'invisible de mes frères. Il travaille dans l'invisible des cœurs de mes frères. Dans l'invisible des cœurs de mon cœur. Il travaille dans cette société. Et il m'offrira le monde invisible qui est finalement le monde des sentiments. Des sentiments parce que c'est invisible. Et le sentiment par excellence, celui seul qui vaut la peine de vivre, c'est l'amour. C'est pour ça que Dieu est amour. Vous vous rendez compte, l'amour est une personne. Dieu est amour. Et cette dimension d'amour, parce que même ceux qui ne croient pas, ils vont reconnaître qu'il y a l'amour, et ça c'est invisible. Eh bien, cette dimension d'invisible, Dieu nous l'offre, Dieu l'habite, c'est Dieu. Et il faut en prendre conscience. De cette existence, de ce monde que Dieu veut nous offrir après la mort, qui nous offre dès maintenant, en nous permettant d'être coopérateurs dès cette vie de l'amour qui est présente dans cette vie, qui travaille avec discrétion mais efficacement. Voilà. Donc si je résume tout ce que Paul veut dire, c'est un appel à la lucidité. Et c'est à la mesure de notre lucidité d'abord par rapport à nous-mêmes que nous saurons vraiment l'avantage qu'il y a à être juif, c'est-à-dire chrétien, hein, si on transpose, c'est-à-dire nous ouvrir à l'abandon à Dieu, parce que Dieu seul, nous sommes tous menteurs, tous pécheurs, Dieu seul est fidèle. Donc Dieu seul peut donner sens à nos efforts, Dieu seul peut inspirer nos efforts, Dieu seul peut donner espérance à ce que nous faisons, et donc Dieu seul peut nous motiver. Et Dieu seul peut vraiment agir là où ça fait mal, dans les cœurs. Parce que là, nous n'avons pas une entrée directe, nous, par nos paroles, par nos actes de violence, par nos actes même d'amour. C'est dans la mesure où nous accompagnons la grâce de Dieu qu'il y a quelque chose. Donc cette lucidité par rapport à nos faiblesses, à nos limites, à celles de nos frères. Cette lucidité aussi par rapport à cette vie n'est pas la fin de tout, cette vie ne saura jamais nous combler complètement, même avec ses bonheurs, même des bonheurs comme la famille. Et nous sommes appelés à lire la Bible et à la prendre pour ce qu'elle est, comme une clé pour nous ouvrir à une autre dimension, celle du Christ, celle de l'amitié, celle de l'amour de notre Dieu. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Et enfin, donc, encore un appel à la lucidité, donc reconnaître nos faiblesses, savoir agir donc en conséquence, c'est-à-dire en nous confiant toujours davantage à la grâce de Dieu, mais surtout ne pas penser que si nous sommes tous pécheurs, donc nous ne pouvons rien faire, c'est à mesure de notre repentance, de notre justice, être juste dans la Bible, c'est s'ajuster à Dieu, que nous pourrons aider nos frères, que nous pourrons nous aider. Voilà, dans cette mesure-là, nous pouvons agir, mais pas autrement. Donc, ça reste humble et pas faire de grandes choses par nous-mêmes. Et puis, il y a un appel aussi à la lucidité, à savoir que non, Dieu est aussi juge et que comme juge, il nous aime avec ses exigences et que justement, cela justifie que nous ayons un rôle à jouer pour nos frères et pour nous-mêmes, à la mesure de notre amour et de notre prière, de notre abandon à notre Dieu qui, lui, est amour et peut nous apprendre à aimer. Donc, Parce que si nous ne reconnaissons pas que ce monde n'est pas parfait, que tout ne se vaut pas, que Dieu est aussi juge, à la mesure de son amour, c'est parce qu'il aime qu'il les juge, alors nous perdons notre sel, notre saveur, et alors vraiment nous pensons que nous sommes inutiles, d'autant plus que si nous sommes les pécheurs, nous ne pouvons pas faire grand-chose. C'est pas ce que Paul veut dire. J'espère que vous avez compris. Alors je vous propose un petit temps de prière pour un petit peu concrétiser tout ça. Seigneur, donne-nous la lucidité de reconnaître notre faiblesse et de reconnaître que nous devons nous abandonner à toi. Seigneur, nous nous abandonnons à ta grâce. Viens travailler dans nos cœurs et viens nous qualifier pour nous rendre plus aimants et plus priants pour nos frères. Oui, Seigneur, nous prions pour que nos frères s'ouvrent toujours davantage à ta grâce et pour que ainsi ils se repentent et puissent jouir de ta présence éternelle dans ton royaume. Et Seigneur, nous nous ouvrons nous à ta grâce aussi. Nous nous confions complètement à toi. Oui, donne-nous l'espérance. Montre-nous que malgré les apparences, nous avons un rôle à jouer par rapport à nos défauts et par rapport à nos frères. Oui, viens nous habiter. Viens nous transformer. Viens nous donner l'espérance. Seigneur, apprends-nous, toi qui as su te faire petit, qui as su vraiment t'incarner au cœur de nos vies, pour justement les transformer, nous guérir. Apprends-nous à agir comme toi, à être humble et aimant au milieu de nos frères et priant, d'être cette espèce de porte du ciel. Oui, c'est pour ça que nous tournons vers toi, car toi seul peux faire de nous une porte du ciel. Et enfin, Seigneur, nous prions pour le peuple juif, afin qu'un jour il te rencontre Jésus et qu'il n'y ait plus ni chrétien, enfin ni païen ni juif, mais tout simplement des chrétiens, des disciples du Christ. Amen.